Le petit Johannes, chapitre 9. Depuis longtemps, Johannes vivait dans l'attente. Le ciel était âpre. De lourdes nuées, en un long et incessant cortège, glissaient presque au ras de la terre où traînaient leurs plis flottantes, tandis que, du front, elles s'érigeaient hautainement dans les airs. Le soleil, que couvrait et découvrait tour à tour ses masses sombres, incendiaient parfois les arbres d'un brusque flamboyement. Ce spectacle éveillait chez Johannes une sourde inquiétude. Il pensait au livre et doutait qu'il pût le trouver. Dans l'intervalle des nuages, très hautes, il apercevait le ciel profond, d'un bleu limpide semé de petites nuées, calmes, immobiles et fines comme un duvet. Tel doit être le bonheur, pensa-t-il. Élevé, clair, paisible. Voici Robbie qui s'approche. « C'est bien, Johannes » cria-t-elle. « Tu peux venir et voir le livre. »« Où est le rouge-gorge » demanda-t-il, soupçonneux. « Il ne m'a pas accompagné. C'est que nous n'allons pas à la promenade. » Il a suivi en pensant sans cesse en lui-même. « Non, cela ne se peut pas. Ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. » Mais il suivit Robbie, dont la chevelure, comme une lueur d'or, éclairait son chemin. Et là, les choses font prendre une triste tournure pour le petit Johannes. Que ne puis-je ici interrompre mon récit? Vous est-il arrivé de vous voir en rêve dans un jardin enchanté, entouré de fleurs et de bêtes qui vous aimaient? Peu à peu se mêle à votre songe le sentiment que le réveil est proche et que ces délices font finir. Vous vous efforcez en vain de la retenir et vous refusez de voir la froide clarté du matin. C'est là ce qu'éprouvait Johannes en suivant Robbie. Johannes pénétra dans la maison. Le vestibule retentissait de pas. Il respira une odeur de vêtements et de cuisine et se rappela les longues journées passées au logis paternel, cette tâche d'écolier, tout ce que sa vie avait eu de sombre et de maussade. Dans une salle, des hommes, dont il ne put estimer le nombre, étaient occupés à discuter et se turent soudain à son entrée. Le tapis attira ses regards, un tapis aux grandes fleurs extravagantes, de couleur criarde, aussi étrangement difforme que celle qui couvra la tenture de son ancienne chambrette. « Ah, voilà donc le garçon du jardinier !» cria quelqu'un. « Viens ici, mon petit ami, n'aie pas peur !» Une voix à côté de lui dit brusquement « Eh, Robbie, il est gentil, ton galon !» Johannes, troublé et plein de frayeur, regardait autour de lui et son front puéril se plissa de rides profondes. Un homme, tout vêtu de noir, le fixait de ses yeux gris et froids. « Et tu veux comme ça découvrir le livre des livres » fit-il. « Il m'étonne que ton père, homme pieux, ne te l'ait pas fait connaître. » « Vous ne savez pas qui est mon père ?» répliqua Johannes. « Il est loin d'ici. »« Peu importe, lis ceci et relis-le, et que cette lecture, sur le chemin de la vie, soit sans cesse. » Mais Johannes avait déjà reconnu le livre. Il secoua la tête. « Non, non, ce n'est pas là ce que je cherche. » Des cris de surprise s'élevèrent, il sentit des regards qui se dardaient de toutes parts sur lui. « Hein ? Que prétendez-vous, mon petit bonhomme ?» Ce livre-ci est le livre des hommes, ce qu'il enseigne est insuffisant. Autrement, ils auraient en partage le calme et la paix. Je veux le livre qu'aucun doute n'atteinte et qui dit nettement pourquoi les choses sont comme elles sont. Est-ce possible? D'où ce garçon tient-il ses idées? Qui t'a appris cela? Je crois qu'il rabâche de mauvaises lectures. Ainsi, des voix l'interpellaient. Ses joues lui brûlaient. Un vertige entraînait les objets autour de lui, et les grandes fleurs du tapis se dérobaient sous ses pieds. Ah, que n'accourait-elle maintenant? La petite souris qui, à l'école, vint l'avertir de se taire devant les hommes. Non, je ne répète pas des phrases de livre, et celui qui fut mon maître est plus sage que vous tous réunis. Je connais le langage des fleurs et des bêtes dont je suis le confident. Je sais ce que sont les hommes et quelle est leur existence. Je suis initié au secret des fées et des gnomes qui m'aiment plus que ne le font les hommes. Petite souris, où es-tu? De tels rires éclatèrent que les oreilles de Johannes en bourdonnèrent et des apostrophes l'assaillirent de toutes parts. Il nous fait l'effet d'avoir lu Anderson, je le crois plutôt dérangé du cerveau. L'homme en face de lui reprit. Si tu aimes tant Anderson, tu devrais avoir au moins son respect pour Dieu et sa parole. Dieu. Ce mot, Johannes l'avait déjà entendu et se rappela la leçon de Liceron. Je n'éprouve aucun respect pour Dieu. Ce n'est qu'un gros quinca poisseux où viennent en masse s'engluer les moucherons. Plus de rire cette fois, mais un silence anxieux où planait de l'horreur et de l'épouvante. Johannes sentit, dans son dos, des regards acérés qui le pénétraient et se ressouvint de son rêve de la nuit. L'homme habillé de noir se leva et le prit par le bras. Johannes eut mal et tout son courage défaillit. « Écoute, mon garçon, » fit l'homme, « je me demande si tu es idiote ou corrompu, mais en tout cas, je ne puis tolérer ici une telle empiété. Va-t'en et que je ne te revoie plus. » Toutes les faces étaient glacées, hostiles. Johannes regarda anxieusement autour de lui. « Où est Robbie ?»« Quoi ? Pervertir mon enfant ? Prends garde à ne jamais lui parler. »« Non, je ne partirai point, » s'écria Johannes. « Laissez-moi près d'elle. Robbie ! Robbie !» Elle était assise, tremblante, dans un coin de la salle et n'osait lever les yeux. « Dehors, vaurien, et ne t'affise pas de remettre les pieds ici !» Une forte poigne le saisit et le poussa dans le vestibule. La porte de verre grinça en se refermant et Johannes se trouva seul dans le parc, sous les nuages bas qui fuyaient. Les yeux secs, il alla droit devant lui. À son front, s'étaient creusées des rides qui, désormais, ne s'effaceraient plus. Le rousse-gorge était perché dans une haie de tilleul et le regardait. Johannes s'arrêta et le regarda aussi. Mais plus aucune confiance ne se reflétait dans les yeux pénétrants de l'oiseau, et quand Johannes fit un pas, il s'envola. « Un homme, fuyons !» cria dans le sentier une bande de moineaux qui se dispersa aussitôt. Les fleurs ne riaient plus. Elles demeuraient droites et gourmées, comme elles sont accoutumées au passage d'un étranger. Mais Johannes ne remarqua pas ces signes. Il ne songeait qu'à la blessure que venaient de lui faire les hommes. C'était comme si des mains dures et glacées lui avaient meurtri le cœur. « Je vais me mettre à la recherche de la clé d'or et je finirai par les convaincre, » conclut-il. « Johannes ! Johannes ! » appela une voix de fossette. Dans un nou, au bord d'un nid d'où dépassait sa tête, luisaient les grands yeux inquiets de Vestig. « Où vas-tu ? » s'informa le gnome. « Laisse-moi en paix. Tout ce qui m'arrive me vient par ta faute. Pourquoi aussi parler aux hommes de choses qu'ils ne sont pas en état de comprendre ? Ils m'ont bafoué. Ils m'ont fait mal, les misérables. Je les haïs. « Loin de là, Johannes, tu continues à les aimer. »« Moi, je les haïs, te dis-je. » »« Autrement, pourquoi t'affecter que leurs pensées diffèrent de la tienne ? Pourquoi te préoccuper de leur jugement ? Pour les haïr, commence par te désintéresser d'eux. »« Je vais leur montrer la clé d'or. » »« Garde ton bien. Tu perdrais ta peine et ils refuseraient quand même de te croire. »« La clé d'or, elle est sous le rosier. Ah ! Puis ses yeux ont retrouvé le chemin. Le chemin de l'étang et des dunes? Je sais où c'est. Si tu sais la route, guide-moi, implora Johannes. Vestig monta sur l'épaule de Johannes et lui montra le chemin. Ils marchèrent durant toute la journée. Un vent violent soufflait et par intervalles s'abattait des averses. Le soir, il y eut une accalmie et les nuages tracèrent de longues stries grises, ourlées d'un or flamboyant. À l'aspect des dunes, Johannes défaillit et ses lèvres murmurèrent « Liceron, Liceron !» Voici le terrier et la dune où, un soir, il s'endormit. La mousse, humide, ne craquait plus sous les pas comme autrefois. Les rosiers étaient défleuris, et des gueules de loup aux fades et entêtantes senteurs dressaient par centaines leurs calices. Des bouillons blancs avec leur feuillage qui semblait de feutre, et levaient très haute leurs fuseaux fleuris, l'air arrogant. Johannes chercha partout le rosier des dunes aux petites feuilles brunies. « Où est-il, Westick ?»«
Que sais-je ? Ce n'est pas moi qui ai enfoui la clé d'or. »
Là où jadis le rosier avait fleuri, s'étalaient les gueules de loup dont les calices regardaient indifféremment le ciel. Johannes les interrogea, ainsi que les bouillons blancs, qui, par orgueil, ne daignèrent même pas répondre. Il s'adressa aussi aux violettes qui s'épanouissaient au ras du sol. Mais personne ne connaissait le rosier. Toutes ses fleurs dataient du printemps.
« Et là, où est-il ? »
« Comme tout est pareil, tu m'as abusé !» s'écria Westick courroucé. « On doit toujours s'y attendre quand on a affaire avec les hommes !» Se laissant glisser de l'épaule de Johannes, il s'enfuit à travers les genêts. Désolé, Johannes regarda autour de lui. Un petit buisson auprès de qui il s'informa. Qu'est devenu le grand rosier qui, l'autre été, se trouvait à cette place ? Répondit. Nous ne nous commettons pas avec les hommes. Ce fut la dernière parole que Johannes entendit. Tout se tut. Seuls les genêts bruissaient dans le vent du crépuscule.
Suis-je décidément un homme ? Se demanda Johannes.
Non, cela ne se peut pas. Je les exècre. Là, l'esprit morne, il s'étendit sur la mousse tendre aux senteurs fraîches et pénétrantes. Je ne puis retourner sur mes pas, ni revoir Roby et privé d'elle, comment vivre? Serais-je donc vraiment un homme, un être semblable à ceux dont je fus hier la risée?
Johannes aperçut soudain les deux papillons blancs, qui, du couchant, venait à lui. Attentivement, il suivit leur vol. Allait-il lui montrer le chemin? Ils le dépassèrent, se cherchant et se fuyant tour à tour, et volèrent en folâtrant vers la forêt prochaine, dont les hautes cimes se couronnaient d'or aux derniers éclats du jour. Johannes courut après eux, mais, quand ils eurent atteint les premiers arbres de la forêt, une grande ombre noire leur fit la chasse. Un moment après, les papillons avaient disparu. L'ombre noire s'élança sur Johannes qui, effrayé, se couvrit le visage de sa main. Tout à ses côtés, une voix âpre, pleine de sarcasme, retentit. « Eh, mon petit ami, qu'as-tu à te désoler de la sorte ?» Johannes s'était figuré qu'une grande chauve-souris se précipitait sur lui, mais, quand il releva la tête, il aperçut un petit homme noir, de sa taille, debout sur la dune. Le nouveau venu avait une grosse tête aux grandes oreilles se détachant en noir sur le ciel clair du crépuscule, un cœur maigre et des jambes en fuseau. Du visage, Johannes ne distingua que les petits yeux scintillants.
« Qu'as-tu perdu, mon petit ? Je t'aiderai à le retrouver. »
Johannes secoua la tête sans rien dire.
« Vois, est-ce ceci que tu cherches ? Reprit l'inconnu en écartant les doigts. Johannes aperçut quelque chose de blond qui, par moments, remuait. C'était le petit papillon qui se moura, les ailes déchirées et tremblantes. Johannes se sentit transi comme si une haleine glacée lui soufflait dans la nuque. Il considéra, plein d'angoisse, l'être étrange qui venait de surgir et lui demanda « Qui êtes-vous ? »
« Tu veux me connaître, mon petit ? Appelle-moi plus cher, sans cérémonie. J'ai d'autres noms en cœur, infiniment plus éclatants, mais qui te sera difficile d'apprécier.
Êtes-vous un homme ?
Allons, de plus belle en plus belle. N'ai-je pas des bras, des jambes, une tête ?
Et quelle tête ? Regarde un peu ma tête.
Tu doutes en cœur que je sois un homme ?
Ah, Johannes, Johannes !
Et le bizarre personnage eut un rire grinçant qui pénétra à la manière d'une vrille.
« Tu sais donc qui je suis ?»
fit Johannes, surpris.
« Ah, cela ne tire pas à conséquence pour moi. Je sais bien d'autres choses en cœur. Je sais d'où tu viens et ce qui t'amène ici. Je sais une infinité de choses. Je sais presque tout.
Ah, monsieur Plucheur !»«
Plucheur ? Plucheur tout court, sans cérémonie, que diable ! » !»«
Et savez-vous aussi ?» Mais Johannes s'arrêta.
« C'est un homme, » pensa-t-il.
Où est la clé d'or? Mais sans doute.
Quoi? Les hommes aussi la connaissent?
Mais oui, Nigo. Vestic corne son secret à qui veut l'entendre.
Vestic est donc de vos amis?
Oui, et des meilleurs. J'en ai du reste un tas. Mais je n'ai pas eu besoin de ses indications, étant beaucoup mieux informé que lui. Au demeurant, c'est un bon garçon, mais il est bête, bête comme pas un. Tandis que moi, ah, moi, il s'en faut de beaucoup.
Et Plucheur, dans un geste qui traduisait sa suffisance, frappa de la main son vaste front.
Te dirais-je le défaut capital de Vistic? Mais ne va pas lui répéter ses paroles, ce serait le désobliger.
Je m'engage à être discret, répondit Johannes.
Il n'existe pas. Avoue que, pour un défaut, c'en est un. Mais lui-même, aveugle à l'évidence, ose aller jusqu'à prétendre que c'est moi qui n'existe pas. Moi, ne pas exister, il ment par toutes ses dents.
Plucheur fourra indifféremment les papillons dans sa poche et soudain fit le poirier, la tête en bas, les jambes en l'air. Il grinça des mâchoires, puis tira la langue.
Johannes, ne se sentant guère tranquille dans le soir tombant, parmi les dunes solitaires, frissonna.
« Excellent procédé pour envisager le monde, » dit Plucheur, toujours sur la tête.
« Si tu le désires, je te l'enseignerai. Dans cette posture, les objets vous apparaissent d'une manière plus distincte, plus naturelle. » Il agitait ses jambes plus minces que des fuseaux et parfois il pivotait sur la main. L'éclat du soir empourpra hideusement son visage. Ses yeux réfusés clignotaient, montraient leur blanc.
Vois, les nuées semblent le plancher et la terre le plafond du monde. Cette thèse est parfaitement soutenable. Dessus, dessous, ne sont que des mots qui ne s'adaptent à rien. Qu'il fera beau de se promener sur ces nuages.
Johannes regarda le ciel qui, avec ses sillons d'ombre et d'écarlate, ressemblait à des guéras ensanglantées. Au bord de l'horizon, s'irradia une voûte de nuages.
Johannes montra le portail de lumière.
« Peut-on y atteindre ?»«
Folie !» s'écria Plucheur, qui, brusquement, au grand soulagement de Johannes, se remit debout.
« Folie ! Ces magnificences reculent à mesure qu'on en approche, et les nuées ne sont que des amas de vapeurs mornes et glacées. »«
Je me refuse à le croire, » répliqua Johannes. Et ces paroles me sont enfin la preuve que vous n'êtes qu'un homme.
Ah bah! Et toi, mon petit, pour qui te prends-tu? Es-tu d'une autre espèce?
Oh, Plucheur, serais-je donc un homme tout comme les autres?
Ni plus ni moins. Tu te crois un elfe, sans doute? Tout d'abord, les elfes ne sont pas amoureux.
Plucheur, les jambes croissées sous son séant, s'accroupit devant Johannes, et ses prunelles scrutèrent l'âme de l'enfant, qui se sentit oppressé et eût voulu se trouver à plusieurs pieds sous terre. Mais il ne pouvait détourner ses regards de ses prunelles qui se rivaient sur lui.
« Seuls les hommes, » continua Plucheur, « s'éprennent d'amour et c'est heureux car, sans cela, leur espèce serait depuis longtemps éteinte. Et tu as beau n'être pas plus grand qu'une botte, Johannes. Tu es amoureux et j'ai vu peu d'hommes l'être à ce point. Auprès de qui, en ce moment, voudrais-tu être ?»
Auprès de Robbie.
Sans qui ne peux-tu vivre?
Ses lèvres remuèrent à pain.
Robbie. Eh bien, ricana Plucheur, tu t'abuses en te prenant pour un elfe. Sache que les elfes ne se laissent pas séduire par les filles et des hommes.
Mais c'est Elisseron, bégaya Johannes, embarrassé.
Plucheur eut un regard sournois et, de ses doigts osseux, lui pinça les oreilles.
Quel conte me fais-tu là? Tu crois m'en imposer? Celui dont tu parles est infiniment plus bête, plus ignorant un cœur que Vestic. Ce qui pis est, il n'existe point et n'exista jamais. Moi seul, j'existe, entends-tu, et si tu en doutes, je te le ferai sentir que j'existe.
Et il secoua par les oreilles le pauvre Johannes qui protestait.
J'ai pourtant longtemps vécu avec lui et nous avons fait ensemble de longues courses.
Tu as rêvé, te dit Junker. « Sinon, montre-moi ton rosier et ta clé d'or. Mais ceci est tout le contraire d'un rêve. »
Et Plucheur pinça plus dur.
Des chauves-souris voletaient autour d'eux en poussant de petits cris. L'ombre descendait d'un ciel noir et lourd. Pas une feuille ne remuait dans la forêt. « Laissez-moi, supplia Johannes, rentrer auprès de mon père. »«
Pourquoi faire ?» demanda Plucher. « Après une si longue absence, tu ne dois guère t'attendre à un accueil amical. »«
Je veux retourner à la maison. » Il songea à la chambre de famille où la lampe abaissait sur la table un cercle de lumière. Son père écrivait et il entendait le bruit de la plume sur le papier. Là, tout respirait la quiétude et la tendresse.
Désormais, il est trop tard. Tu n'aurais pas dû partir à la suite de cette elfe qui n'a même pas d'existence. Je prendrai soin de toi et, somme toute, que ce soit ton père ou moi qui s'en charge, la chose au fond revient au même. Un père, sache-le, n'est qu'un pur concept. L'aurais-tu, par hasard, choisi toi-même, que tu y tiens tant, et te figures-tu que nul ne le veille? Va, je l'égale en bonté, en dévouement, et de surcroît, je le dépasse, oh certes, de beaucoup, en intelligence.
Johannes ne se sentit plus la force de répondre. Il ferma les yeux.
Quant à Robbie, ce n'est pas à elle non plus ce qu'il faut adresser, lui dit Plucher à l'oreille en lui mettant familièrement les mains sur les épaules. Cette jeune demoiselle se moque de toi comme les autres. Ne te rappelles-tu pas que la dernière fois que tu la vis, elle resta assise dans son coin, sans mot dire, pendant que les hommes te riaient au nez? Tu lui parus gentille. Elle se servit de toi comme d'un hochet. Ton départ ne l'affecta guère. Elle ne sait rien du livre. Moi seul, je puis dire où il est, et je t'aiderai à le trouver. Je sais presque tout.
Peu à peu, Johannes reprenait confiance.
M'accompagnes-tu ? Demanda Plucher.
Ah, je suis bien là, répondit Johannes. Laissez-moi dormir.
Je n'aime pas le sommeil. Moi-même, je suis trop alerte pour dormir. Un homme se doit d'observer, de méditer sans cesse, mais je consens à t'accorder quelque répit. « À demain !»
Plucher se donna l'air le plus aimable qu'il put. Johannes fixa ses yeux luisants et tout le reste s'effaça. Le front alourdi, il s'appuya contre la dune moussue. Les yeux de Plucher s'éloignaient. Ils finirent par étinceler comme des étoiles dans le ciel obscur. Johannes semblait entendre des voix lointaines. La terre se déroba sous lui. Il cessa de penser.